Figaro Radio.
Le club, le Figaro Politique.
Alors on va commencer évidemment par cette actualité très, très forte hein, qui a marqué le week-end, l'attentat à Moscou qui a fait plus de 137 morts. Comment ne pas penser évidemment quand on voit les images de cette salle de concert envahie par des terroristes avec des kalachnikovs aux images du Bataclan. On y a évidemment tous pensé avec cette question du retour de la menace terroriste sur le sol européen. Elle est prise très au sérieux par Emmanuel Macron qui a rehaussé ce matin le plan Vigipirate et a évoqué plusieurs tentatives d'attentats sur le sol français ces derniers jours. On l'écoute, c'était ce matin.
Sur ce sujet, une décision qui a été prise hier en Conseil de défense a été simple, c'est de prendre acte des décisions dont nous disposons, de voir aussi que ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate.
Alors, Albert Zénou, on a déjà vu hein, dans des campagnes électorales comme ça la question du terrorisme faire irruption parfois de façon encore plus brutale, puisque là, on est sur un attentat en dehors du territoire français. Mais est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la campagne des élections européennes ?
Si on se rappelle les derniers événements, les derniers attentats que la France a connus, les conséquences politiques ont été fortes, mais d'un point de vue électoral, elles n'ont pas abouti à grand-chose. Ça n'a pas fait changer, n'a pas modifié les rapports de force. Il se trouve que là, nous avons une campagne électorale qui commence. Le 9 juin, il y aura les élections européennes. Et cette menace-là, elle existe, d'autant qu'on s'apprête à fêter quand même une chose très importante pour la France et pour le monde, les Jeux Olympiques en fin juillet. Et donc, tout le monde est à l'affût et craint que ressurgissement du terrorisme puisse un jour venir en France. Alors sur le plan politique, il y a traditionnellement, quand il y a des événements tels que la Russie l'a connu, mais tels que la France l'a connu aussi après le Bataclan, ça se resserre autour de l'exécutif. Les Français.
On appelle ça l'effet drapeau. Alors
l'effet drapeau.
Parfois donc, aussi pour une intervention militaire à l'étranger.
Oui.
Donc, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça peut fonctionner ?
Traditionnellement, ça dure pas longtemps. Il y a effectivement un effet drapeau qui se met derrière l'exécutif, derrière le président de la République, derrière les ministres, mais ça ne dure pas. Alors, est-ce que ce qui s'est passé en Russie et ce qui pourrait peut-être arriver en France, ce que redoute, pourrait avoir le même effet ? Pour l'instant, pas énormément.
Bernard Sananès, vous qui regardez de très près dans les études d'opinion, les préoccupations des Français, notamment en vue de ces élections européennes, est-ce que vous pensez que la question de la sécurité et du terrorisme peut être justement un des thèmes qui peut émerger dans les prochaines semaines après cette
élection ? D'abord, dans l'opinion, la menace terroriste n'a jamais disparu, conformément à la réalité de ce que nous disent tous les experts. Les Français sont convaincus depuis le Bataclan, depuis Charlie, depuis beaucoup d'attentats, l'attentat de Nice évidemment, que la menace terroriste est toujours présente. Alors l'intensité diffère en fonction de l'actualité, en fonction des alertes, en fonction du discours des politiques.
Je vous interromps, est-ce qu'elle est devant les inquiétudes vis-à-vis de la guerre en Ukraine ?
Légèrement devant, mais par exemple, ce sont les questions de sécurité intérieure qui devancent même les questions de lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire la sécurité au quotidien. Il y a grosso modo, vous le savez, en ce moment, trois préoccupations majeures pour les Français. Le pouvoir d'achat, qui est en tête depuis deux ans, depuis le début de la guerre en Ukraine. Ensuite, la question de santé. On oublie de le dire trop souvent, la santé, le sentiment que le système se dégrade. Et puis, les questions de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est évidemment de rappeler que cette peur de la menace terroriste, elle s'additionne à d'autres peurs. Et quand on regarde un peu, pour dézoomer un tout petit peu, si vous m'y autorisez, pendant 30 secondes, le climat, l'état d'esprit de la société française, s'il y a un mot qui le résume, c'est le mot de vulnérabilité. le sentiment de vulnérabilité au pluriel. Il y a la peur terroriste, il y a la peur sécuritaire, il y a la peur migratoire, il y a la peur des événements climatiques, il y a la peur du déclassement économique, et toutes ces peurs s'additionnent et font naître et renforcent ce sentiment de vulnérabilité qui est finalement, je n'ai pas simplement peur, mais je me dis qu'il peut m'arriver des choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Je vais vous prendre cet exemple, ce qui s'est passé à Marseille avec la jeune Sokaina, cette jeune fille qui a été tuée alors qu'elle était en train de faire ses devoirs par une balle perdue. Voilà. C'est-à-dire, c'est au-delà de la peur, c'est le sentiment que quelque chose auquel je n'avais pas pensé puisse arriver. Donc ce sentiment de vulnérabilité, il a un impact évidemment sur le discours politique, sur les campagnes politiques. Pourquoi ? Parce qu'il pose une question face à ces situations, qui me protège ? Est-ce que l'État me protège ? Je ne cherche même pas à politiser, mais est-ce que l'État me protège ? Est-ce que l'Union européenne me protège ? Est-ce que les forces de l'ordre me protègent ? Et ce besoin de protection, c'est aujourd'hui une constante de la société française.
Guillaume de Monjou, je rebondis sur ce que nous dit Bernard Sananès. Quand on voit Emmanuel Macron, qui a basé finalement toute sa stratégie de campagne des européennes, pour l'instant, sur la guerre en Ukraine, en tentant un peu dramatiser, peut-être de diaboliser aussi ses adversaires, notamment du RN, vis-à-vis de ses liens avec Vladimir Poutine, est-ce que c'est une bonne stratégie quand on voit finalement les attentes des Français qui sont peut-être un peu plus larges, plus diffuses ? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne stratégie ?
Moi, je pense que il essaie de répéter Emmanuel Macron ce qui a marché comme un bon élève, assez astucieux. Et en 22, c'est vrai qu'en 2022, c'est comme ça qu'il a réussi à être réélu, c'est en se présentant comme vraiment le chef de guerre d'une nation menacée. Et donc, je pense que le fil est assez gros. Mais c'est vrai que les attentes sont plus subtiles. Je vous rejoins là-dessus et je trouve que la question de la santé, cette dégradation comme ça, quasiment inéluctable, et se perçoit à l'occasion de chaque événement. Je dirais que ce qui est intéressant dans ces Jeux Olympiques, c'est qu'ils ont été faits de façon assez... Ils ont été pensés, je dirais, de façon presque un peu naïve, comme dans un monde idéal. On ouvre tout, on fait des Jeux Olympiques dans un déni total de la menace terroriste. Et
ouais,
là...
Il y a quand même eu des mesures...
Oui, mais voyez,
ils préparent quand même activement, la cérémonie d'ouverture.
Oui, d'ailleurs, elle est en train d'être remaniée. L'organisation se change tous les jours justement les contraintes qui apparaissent, mais il y a aussi cette idée que pourquoi pas les exporter vers Marseille, là où il y a une opération en ce moment qui ne vous a sûrement pas échappé, XXL contre les gangs de drogue. Voilà. Dans le 9-3 aussi, tous ces quartiers sont en train d'être... on a voulu, en effet, rendre ces Jeux Olympiques un peu comme une espèce de nouvelle France qui serait accueillante, quoi qu'il arrive. Et en fait, peut-être que la réalité va être plus douloureuse ou plus risquée, plus, plus insaisissable.
Bertie Bayard, je reviens sur les attentats de Moscou. Est-ce que finalement la question de fond, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est de savoir quel est notre ennemi principal, nous les Occidentaux? Est-ce que c'est la Russie de Vladimir Poutine ou est-ce que c'est le terrorisme islamiste?
On voit que cette question, elle a immédiatement ressurgi et c'est probablement ça que cet événement va le plus réverbérer avec la campagne électorale pour les européennes. C'est-à-dire que on en voit qui nous formule maintenant une sorte de nouveau syllogisme, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc il faut certainement avoir plus d'attention à la menace terroriste, disent-ils, qu'à la menace que ferait peser Vladimir Poutine sur l'Europe et sur la France en particulier. Là encore, c'en est une autre, mais c'est une autre ficelle qui est assez grosse. Et je ne pense pas qu'on soit obligé de choisir entre hiérarchiser comme ça de façon un petit peu instantanée et différemment l'échelle l'échelle des difficultés qui se présentent à l'Europe avant les européennes. Donc clairement, le problème le plus immédiat reste et le plus brûlant reste le sujet de la guerre en Ukraine. Il n'empêche que par ailleurs, nous vivons sous la menace d'un terrorisme islamiste qui est assez protéiforme, même s'il se manifeste de façon assez similaire avec cet attentat à Moscou qui effectivement fait très écho à ce qu'on a pu connaître au Bataclan. Mais cette menace, elle n'a jamais totalement disparu évidemment du paysage français. Je pense en particulier à l'assassinat du professeur Bernard qui a contribué à laisser cette trace diffuse dans la société française de la menace terroriste.
Et alors justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, puisque quand on regarde les profils des terroristes pour l'assassinat du professeur Bernard et de Samuel Paty, il s'agit d'immigrés russophones qui viennent des républiques limitrophes de la Russie, donc que ce soit le Caucase ou bien les républiques d'Asie centrale. Est-ce que cet attentat qui a été perpétré apparemment, nous dit-on, côté du Kremlin, par justement des ressortissants du Tadjikistan, je crois, ça peut à nouveau remettre au centre du jeu la question de l'immigration et des conséquences d'une immigration, notamment en termes de risques terroristes à Berzénou.
Sans doute, puisque c'est un des thèmes, alors c'est peut-être pas parmi les trois questions qui taraudent le plus les Français, mais en tous les cas, l'immigration est un sujet qui fait énormément débat, et effectivement, le fait que ces anciennes républiques soviétiques fournissent aujourd'hui le gros des terroristes, que ce soit des Tchétchènes, des Tadjiks, des Ingouches. Il y a comme ça, on s'aperçoit que la technique des plaques terroristes a évolué avec ces anciennes républiques soviétiques qui viennent en France, souvent avec un statut de réfugié, et qui commettent des attentats. Les derniers attentats ont été commis par des Tchétchènes, des Ingouches. Donc oui, effectivement, je pense que ça va redonner un peu plus de poids à cette question de la maîtrise de l'immigration. Alors certains parlent d'invasion migratoire, de submersion migratoire. Il y aura sans doute dans les jours et dans les semaines qui viennent ce débat qui va ressurgir avec toujours en ligne de mire les Jeux Olympiques. Enfin, on reste avec cette idée que pendant deux semaines et peut-être quatre avec les événements qui précèdent et qui suivent, la France sera et Paris sera au centre du monde et avec une caisse de résonance fantastique pour des groupes terroristes qui voudraient commettre des attentats en France.
Diane de Monjou.
Je pense à quelque chose en vous écoutant. Je me dis, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière une députée suédoise du centre droit libéral a présenté ses excuses pour avoir dans l'Expressen pour avoir été tout à fait dans un déni de la massivité de l'accueil des immigrés par la Suède. Elle disait aujourd'hui on est à 20% de personnes qui sont issus de l'immigration hors d'Europe, et ça déstabilise totalement l'identité de notre pays. Et aujourd'hui, je dois, en tant que femme politique, présenter mes excuses. Et je me disais, en voyant ça, je me disais, mais nous, on n'a pas du tout cette culture-là, en France, notamment, ou dans notre coin de l'Europe, de présenter nos excuses pour avoir peut-être fait des erreurs à des moments donnés de l'histoire récente. Et nos hommes politiques seraient bien avisés, je trouve, à un moment donné, de considérer les moments où ils ont été trop laxistes, depuis 2015 notamment, parce que ce flux migratoire est au constat de tous une préoccupation majeure. Et je trouverais ça intéressant, voilà, que ce soit une possibilité pour eux d'envisager, de présenter leurs excuses et de prendre un virage et de changer de politique. Je ne sais pas si c'est...
Les pays scandinaves ont une tradition d'accueil des immigrés qui est assez récente. La France et d'autres pays en Europe plus méridionale avaient des liens avec les pays méditerranéens qui ont fait qu'il y avait une immigration des pays du Maghreb qui est assez ancienne.
Oui, plus historique.
Alors que dans les pays scandinaves, elle est assez récente. Donc il y a eu un afflux très fort d'immigrés venant soit des pays méditerranéens, soit du Proche-Orient, notamment les Irakiens, les Kurdes, qui ont beaucoup immigré en Suède. Ce qui fait que tout d'un coup, la Suède, comme le Danemark, comme la Finlande, ont connu des changements de population très rapides et très forts.
Alors, est-ce qu'il faut que le président de la République fasse ses excuses sur le sujet de la dette et du déficit public? C'est le deuxième thème de notre émission. Quand on regarde les chiffres, on peut se poser la question, hein, quand même, Bertie Bayard. Le déficit qui pourrait largement dépasser les 5%, on en saura plus demain avec les chiffres de l'INSEE. La dette publique qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. Les intérêts de la dette qui sont autour de 55 milliards d'euros en 2024, c'est absolument... colossal, on n'arrive même plus vraiment à s'imaginer, hein, concrètement ce que ça peut représenter. Est-ce qu'on peut dire que la cote d'alerte est atteinte, voire en fait peut-être dépassée?
Je ne commençais pas à répondre à votre première question. Non, il n'y aura pas d'excuse.
Ah oui, ça on peut l'imaginer.
La cote d'alerte, le problème c'est qu'on ne sait jamais où elle se situe exactement, parce qu'on l'a annoncé à plusieurs reprises, finalement la catastrophe totale n'est jamais arrivée au sens de la faillite ou du dérapage absolu sur les marchés financiers de notre dette. Cela dit, là effectivement il s'est passé quelque chose qui est cette erreur de de prévision sur 2023 déjà. Ouais. Donc le déficit qui devait être à 4,9 sera donc probablement plutôt autour de 5,5, 5,6, dit-on, on verra le chiffre demain. Donc ça c'est assez majeur sur la base d'une erreur sur la prévision de croissance qui s'est révélée beaucoup moins importante que ce qu'on attendait. Et puis après, il y a la question de la trajectoire ensuite, hein, 2024, 2025, 2026, 2027. Déjà 2024...
La promesse, c'est de ramener à 3% en 2027. C'est ce sur quoi s'est engagé Emmanuel Macron.
C'est un peu la dernière promesse qui reste, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, la trajectoire était aussi importante que l'objectif, c'est-à-dire donc l'objectif final de parvenir sous les 3% en 2027. Mais la trajectoire était aussi importante, c'est-à-dire on passait par le jalon de 4,4% de déficit en 2024. Probablement on n'y sera pas. Ça, le gouvernement devra donner plus d'éléments là-dessus avec le programme de stabilité qu'il envoie à la Commission européenne au mois d'avril. Et donc là, il faudra bien voir qu'à partir de ce dérapage de 2023, forcément, il y a aussi du dérapage en 2024, et malgré les 10 milliards d'euros d'économies qui ont été décidés dès le mois de février.
Alors 10 milliards, c'était un peu un plan d'urgence pour vraiment répondre immédiatement. Ensuite, il y a un plan de 20 milliards pour le prochain budget qui est envisagé. Jusqu'où on peut monter dans ces plans d'économie, selon vous, dans les prochaines années?
Il va falloir de toute façon monter en puissance, effectivement. Donc le gouvernement a prévu, dit maintenant... C'était déjà 12 milliards, on considérait que la marche était très haute, déjà, de faire à nouveau 12 milliards d'économies pour le budget 2025. Le gouvernement dit qu'il sera plutôt 20 milliards. Pierre Moscovici, il a fait l'addition des différentes années, il dit qu'il fera 50 milliards, donc on est sur des chiffres, effectivement, qui ne veulent pas dire grand-chose, tellement ils paraissent énormes. Voilà, alors là, ce qu'on voit, c'est... La façon dont le gouvernement est en train d'essayer, j'allais dire, de nationaliser un petit peu le débat au sens de l'étendre, de l'ouvrir à tout le monde en disant « Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour arranger la situation ?» Donc, c'est une façon de répartir la charge de la responsabilité en appelant et les oppositions et les collectivités locales et le modèle social en renfort pour dire où est-ce qu'on... Et donc, les partenaires sociaux pour dire où est-ce qu'on va chercher des économies. Dites-moi, et moi, à la fin, je ramasse les copies et je ferai le...
Alors, le problème, c'est que pour l'instant, les oppositions sont... un peu réticentes à jouer le jeu. En tout cas, elles sont très critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron. À l'image de François-Xavier Bellamy, on l'écoute, c'était ce week-end lors de son meeting à Aubervilliers.
Ils avaient promis que l'économie serait tenue. Alors ça, oui, on allait voir. Le Mozart de la finance. On a vu et on n'a pas été déçus. Après 7 ans à l'Élysée, finalement 12 ans au pouvoir, tous les records sont battus. Avec des services publics fragilisés, et un investissement au point mort, la France réussit à être championne du monde des impôts et en même temps championne d'Europe de la dette. C'est d'ailleurs le seul en même temps qu'on ait vraiment senti passer.
Alors Albert Zenou, on entend bien la critique qui vient des Républicains, c'est un refrain assez classique, mais est-ce que finalement les Républicains sont bien placés pour effectuer cette critique quand on voit les mesures qu'ils proposent? Un exemple, par exemple, sur les agriculteurs, ils ont proposé un revenu minimum pour les agriculteurs. On ne sait pas combien de millions d'euros ça coûterait, mais il y a un peu un double discours quand même du côté de la droite aujourd'hui sur ces sujets.
Oui, d'autant que leur bilan à eux n'est pas non plus porté au début. Ouais. Pendant longtemps, la droite a gouverné. Ça fait 50 ans qu'on a des budgets qui ne sont pas à l'équilibre.
Donc, ils ont eu la crise financière.
Il y a toujours des raisons qui expliquent qu'on dépense trop. François Bellamy est ironique sur le président et sur le Mozart de la finance. Mais c'est vrai qu'il s'était présenté comme celui qui allait arranger tout dans l'économie, qu'il maîtrisait les processus, qu'il maîtrisait les schémas et qu'il apporterait à la France la prospérité qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps. Donc perdre cet élément-là dans le discours politique de la majorité, c'est compliqué, puisque on sait très bien que sur le plan diplomatique, la France n'est pas très bien engagée. Sur le plan sécuritaire et régalien, là aussi, ça patine un peu. Sur le plan sociétal...
C'était le dernier atout de la Macronie.
Le dernier atout, c'était l'économie. Ils n'ont pas cessé de vanter les réussites de la France en la matière, qui n'étaient pas si nombreuses que ça. Arriver avec une dette aussi colossale que 3 millions... On se rappelle qu'en 2007, François Fillon avait dit qu'il était à la tête d'un État en faillite, et il y avait, à l'époque, que 1 200 milliards de déficit. Là, on est à plus de 3 200 milliards. Donc, la situation est ingérable. Alors, ça ne touche que la droite. On voit que les oppositions de gauche, pour eux, la dette, ça ne pose pas de problème. Ouais. C'est pas un sujet.
C'est
open bar où on la perd de toute façon, comme dit Mélenchon, de toute façon, on ne paiera pas la dette. Donc, c'est d'une manière ou d'une autre, donc c'est plus facile à gérer. Mais ça reste une vraie faille dans la stratégie présidentielle.
Bernard Sananès.
Oui, d'abord, c'est vrai qu'il y a la surprise, Bertie Bayard l'évoquait, liée au défaut d'anticipation. C'est vrai que tout d'un coup, même si on savait que la dette française était sous tension, c'est pas récent, le fait de réunir un conseil de plusieurs ministres ou de responsables de la majorité, pardonnez-moi, un soir à 20h30, comme si on découvrait le sujet, surprend dans la gouvernance économique du pays. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que dans les indicateurs, les marqueurs sur lesquels Emmanuel Macron et son exécutif espérait construire son bilan, il y a, c'était un des premiers mots, je crois, prononcés par le chef de l'État dans le discours du Congrès en 2017, c'était le mot d'efficience. Et le mot d'efficience, d'efficacité majorée, on va dire, là, est revu à la baisse. On voit bien que cette efficience, elle est prise à défaut. Et puis, troisième point, qui, sur le plan politique, peut avoir des répercussions. Les uns et les autres cherchent la bonne stratégie face au Rassemblement national. Il y a eu la stratégie des valeurs. On sait qu'elle a du mal, la stratégie dite du Front républicain, elle s'érode. Il y a eu la stratégie qui est d'aller sur ces thèmes. On a vu que souvent, les électeurs préféraient la copie. Et une des dernières stratégies qui restait, c'était la stratégie de la crédibilité. C'est l'argument de dire au Rassemblement national, sur toutes les questions économiques, vous n'êtes pas crédible. Argument qui, d'ailleurs, obtient encore une certaine résonance dans l'opinion, notamment auprès des retraités, qui sont très sensibles à la bonne gestion économique. Là, cette mauvaise nouvelle...
Le RN va pouvoir envoyer cette accusation.
Voilà.
À la
Et pendant la campagne électorale, c'est sûr que l'argumentation de défaut de crédibilité du Rassemblement national pourra être renvoyée par ce parti aux responsables de la majorité.
Alors, on l'a dit, hein, c'est quand même compliqué pour les politiques d'aborder ce sujet. C'est un peu un sujet tabou, Guyonne, parce que on voit qu'à chaque fois que des candidats, par exemple à la présidentielle, je pense à François Fillon, mais il y en a eu d'autres, Valérie Pécresse également, ont essayé de s'attaquer à la question des finances publiques et du déficit, ils se sont un peu cassés les dents. Est-ce que c'est un sujet...
psychologique, je pense.
impossible oui. pour le monde politique.
Moi, je pense que, de toute façon, le rapport que nous avons avec notre dette est un rapport très ambivalent, parce qu'à la fois, on est très conscient du fait que c'est ingérable, comme vous le disiez, c'est vraiment le mot, quoi. C'est vrai. Enfin, que fait-on avec 3 200 milliards de déficit? Comment est-ce qu'on peut avancer dans une perspective même politique pour avoir du poids sur la scène internationale et tout ça? Impossible. Et en même temps, ça fait 50 ans et il y a une espèce de doudou. Il y a quelque chose de dans cette dette qui nous rassure.
C'est l'État nounou.
C'est l'État nounou. Alors ça pourrait être aussi une espèce d'objet transitionnel, oui, pour se dire voilà, puisque les autres payent pas, puisqu'on passe son temps à effacer d'un coup de chiffon les dettes des Africains, les dettes des pays, voilà, et qu'on arrive à créer des systèmes pour pourquoi est-ce que ce serait pas de l'argent magique finalement. Il y a un petit côté pensée magique et je trouve que ça va très bien avec notre président qui est assez familier de cette pensée magique. Souvent, comme il est un peu dans son théâtre, dans son idée que les choses doivent aller comme il pense qu'elles doivent aller, eh ben, je pense qu'il a plus de déni de cette réalité-là. Et c'est vrai que les LR seraient, à mon avis, très très habiles de se positionner sur cette question de la rigueur budgétaire, parce que on ne connaît pas très bien le programme de Marine Le Pen sur ces sujets. Elle avait proposé une retraite pour tout le monde à 60 ans. Elle avait proposé de sortir, voilà, de. On se rappelle de.
C'est un programme très dépensier. Hein,
oui, très dépensier. Et en même temps, en ce moment. Elle n'a pas encore affiché son programme alors qu'on n'est pas très loin du scrutin. Donc je pense qu'il y a quelque chose pour les Républicains. Asseoir une crédibilité économique, à mon avis, c'est le moment.
Ça semble totalement irréel pour beaucoup de Français. 3 200 milliards,
oui,
ça ne veut rien dire.
C'est devenu quasiment virtuel.
Donc c'est bon, oui, on leur dit que c'est important, que c'est grave et que c'est même gravissime, mais dans le quotidien, on ne voit pas trop la différence. On n'imagine même pas ce que ça peut être. Et alors, comment la rembourser? Alors ça, c'est encore une autre...
Alors, comment rembourser, Bertie? Les impôts. Il y a un débat qui
revient un instant sur, Albert a cité tout à l'heure l'expression du Mozart de la finance. Ouais. Je pense que c'est une expression qui a été taillée davantage par les oppositions à Emmanuel Macron que venant de la majorité, au sens où Emmanuel Macron n'a jamais été un fervent défenseur de la rigueur budgétaire. Voilà, sa vision de l'économie n'a jamais été celle-là, et de toute façon, ça n'a jamais été sa passion de couper des petits bouts de budget à droite à gauche. Cela dit, il a clairement aujourd'hui un problème de crédibilité qui peut être sanctionné le mois prochain par les agences de notation. Enfin, première qui se prononce le 26 avril.
Oui, c'est ça, il y a toute une succession de notations.
Voilà, on sait que pour Nicolas
avril,
Sarkozy, ça avait été un choc de perte.
Au dernier jour avant le scrutin des Européennes, voilà. Ça va être vraiment être très stratégique.
Oui. Mais donc la prochaine échéance, c'est vraiment important, c'est le 26 avril de ce point de vue-là. Donc là, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet qui met un petit peu en difficulté la majorité, c'est le sujet des impôts. C'est-à-dire qu'effectivement, une bonne façon quand même de boucher en partie le trou serait d'augmenter les impôts. Et ça, c'est vraiment là, pour le coup, la marque de fabrique de la Macronie, de dire « je n'ai pas augmenté les impôts, je n'augmente
pas les impôts ». Donc il tiendra, selon vous, cet engagement ?
Je pense.
Ouais.
Voilà. Alors après, il y aura un petit peu de... Voilà, il peut y avoir un petit peu de jeu de vase communicant à l'intérieur d'une catégorie d'impôts ou des choses comme ça. Il peut y avoir un peu de pas dire de bidouillage, mais bon, ça range un petit peu avec la réalité. Mais la ligne politique, c'est vraiment celle-là qui tient encore. Donc il faut, je pense qu'ils préféreront creuser des déficits davantage que d'augmenter significativement les impôts, comme commence à le réclamer une partie de la gauche de la majorité. Là, ça posera un problème. Et puis évidemment, dans la campagne des européennes, la gauche de Glucksmann à Manon Aubry, évidemment, le réclamera avec force. Voilà. Le troisième point, c'est sur les Républicains, c'est-à-dire que le sujet du budget, ça peut être l'occasion qu'il leur manque de passer à la phase motion de censure, qui semble quand même les démanger un petit peu à l'occasion. Et donc là, vraiment, il y aura un sujet qui est pour eux idéal, si tant est qu'ils veuillent franchir ce pas-là.
Notamment s'il y a un budget rectificatif à l'Assemblée.
Et si le gouvernement leur en donne l'occasion.
Voilà, il faut qu'il y ait l'occasion pour faire la motion. Mais en effet, ils pourraient profiter de l'occasion pour finalement signifier un veto clair et ferme, et peut-être se différencier aussi d'Emmanuel Macron, parce que c'est une des questions sur lesquelles ils peuvent être crédibles et audibles, Bernard Sanavas.
Bien sûr, pour LR, c'est une marque de fabrique. Pour l'électorat LR, la maîtrise de la dette est une marque de fabrique. Mais au-delà, pour la campagne européenne, et encore plus si on se projette dans l'élection présidentielle, dans la campagne qui finira par démarrer, il y a la question, bien sûr, de, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a cette ambivalence, je dirais même, on peut le reconnaître, une forme de schizophrénie chez les Français qui disent, oui, ils sont 80%, 85% à dire il est urgent de réduire la dette, et quand on teste les mesures, là c'est plus difficile et c'est normal. Donc la question de où va porter l'effort, vers qui l'effort va être réparti. Les Français finalement ils sont un peu dans le côté de dire toi d'abord, toi l'État, toi les collectivités locales, et c'est bien normal puisqu'ils affrontent un certain nombre de difficultés. Donc derrière ça va se poser sans doute en filigrane pour l'élection présidentielle, on est un peu loin mais on peut faire un peu de prospective, la question du financement du modèle social. Est-ce que l'État va s'attaquer aux dépenses sociales ou est-ce qu'il va d'abord réduire son train de vie et sans trop attaquer les dépenses sociales. Ça va être un sujet très important et qui aura un impact électoral très fort. Vous avez vu comment le gouvernement a été obligé de démentir très rapidement ce qui commençait à se propager comme un feu de poudre. Un feu de poudre, c'est comme ça qu'on dit. Non, de paille. De paille, pardon.
Un traînée de poudre,
voilà. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Sur les APL et comment le ministre.
On se souvient du précédent 2017.
Tout de suite, parce que cette affaire des APL pour 5 euros avait considérablement marqué l'opinion.
Moi, j'ai une question, mais peut-être que Bertie, vous pourrez... comment est-ce qu'on peut se tromper autant quand il présente son projet de loi de finances avec Bruno Le Maire, on est en septembre dernier, c'est 4,9% de déficit public pronostiqué, et on est autour, paraît-il, on saura demain, mais de 5,6. C'est un différentiel colossal pour moi. Mais comment est-ce qu'on peut se tromper autant ?
On est sur un phénomène double, mais corrélé, qui est... un bon coup d'arrêt à la croissance, qui n'est pas très surprenant, on l'attendait plutôt, c'est-à-dire au début de l'été, il n'était pas intervenu au deuxième trimestre 2023. Donc, le gouvernement s'est dit, finalement, comme d'habitude, les cassandres ont eu tort, et donc, ça va continuer. Or, à partir le deuxième semestre a été mauvais en termes d'activité. Et ça s'est ressenti de façon très forte sur les recettes des impôts, et notamment l'impôt sur les sociétés, qui jusque-là rentrait extrêmement bien. Malgré la baisse du taux, les recettes étaient très fortes. Et donc là, il y a eu à nouveau un coup d'arrêt assez brutal. Donc la différence est assez spectaculaire. La façon dont elle est arrivée, finalement, est explicable.
Alors, on va passer au dernier thème de cette émission. On va parler, une fois n'est pas coutume, du Rassemblement national qui caracole en tête des sondages en vue des européennes. Notre dernier sondage IFOP pour le Figaro, publié ce matin dans nos colonnes, donne la liste de Jordan Bardella à 30% contre 7% pour la liste LR de François-Xavier Bellamy, qui est finalement pris en étau entre le RN et la liste de Valérie Ayé, la candidate macroniste, qui est testée à 21%. Albert Zenou, comment ils peuvent s'en sortir, là, les Républicains, dans cette tenaille dans laquelle ils sont pris?
Ça va être difficile et compliqué. Ouais. Être pris, l'espace politique qui est réservé aujourd'hui à la droite républicaine, pour simplifier, il est très étroit. Il est coincé entre le RN et d'une certaine manière aussi Reconquête et la Macronie et Renaissance. Donc tout ce qui existait dans cet espace-là est difficile. Comment se distinguer? Comment arriver à apporter une voix nouvelle? Comment aller convaincre les électeurs qui vont se déplacer le 9 juin, sachant que la participation est très faible en général aux européennes, donc c'est autour de 50%. Comment exister dans cet univers-là est difficile. On voit que les sondages donnent crédit la liste de Bellamy entre 7, 8%. En gros, je crois que si Bellamy refaisait son score de 2019, ce serait déjà un succès. Et en 2019, c'était une catastrophe.
Voilà. Il y a eu une inversion des...
De la compréhension des chiffres et des résultats. Donc, depuis 2019, il y a un nouvel entrant, c'est Reconquête, qui a pris une partie de l'électorat traditionnel de la droite. En gros, la bourgeoisie patriote, ce qui fait aujourd'hui défaut un peu à François Bellamy. Et donc, retrouver cet élément-là, ça va être difficile, mais en même temps, c'est absolument essentiel et stratégique pour 2027. Si la liste LR faisait moins que le précédent scrutin, ce serait très compliqué pour 2027 et pour le candidat LR.
Albert, vous parlez de sondages et de catégories d'électeurs. On voit justement, en regardant les sondages, que le RN est à la conquête de nouvelles catégories d'électeurs, notamment chez les cadres et chez les personnes les plus âgées, même s'il y a encore des résistances. Il est en train d'étendre finalement sa sphère d'influence pour devenir un parti attrape-tout qui résonne dans toutes les sphères de la population française.
Vous avez tout à fait raison de signaler ce point qui est très important, et ça c'est l'effet du tandem, duo, appelons-le comme on veut, Le Pen-Bardella. C'est vrai que Jordan Bardella vient compléter, au moins pour les européennes, l'image de Marine Le Pen auprès d'électorats qui jusqu'à présent étaient un peu un plafond de verre. Alors c'est le cas pour les cadres, il se passe quelque chose de très important qui est double. D'abord le recul de la Macronie auprès des cadres et auprès des électeurs des grandes villes, qui a été longtemps un socle électoral très important, et effectivement la progression du vote Rassemblement National. C'est un peu différent sur les retraités où le Rassemblement National progresse, mais là on voit bien qu'il y a une limite sans doute sur les questions de crédibilité économique dont on parlait tout à l'heure. Et puis, vous savez, dans une élection européenne, Albert Zenou nous le rappelait, il y a eu la dernière fois 50% de votants, même si on a oublié de dire que ça avait progressé de 8 points par rapport à l'élection de 2014, un peu à la surprise générale, et dans les 3-4 derniers jours. Donc on verra, est-ce que les enjeux dramatiques qui mettent en cause l'Europe, est-ce que les enjeux d'actualité, je pense à la crise agricole, je pense bien sûr à l'Ukraine, au terrorisme, personne ne le souhaite, mais demain, peuvent faire monter la mobilisation. Et donc, dans cette bataille, il y a deux clés qui sont, un, de fidéliser et deux, de mobiliser. Pour l'instant, le Rassemblement national est celui qui fidélise le mieux son électorat. C'est-à-dire que les électeurs qui ont voté Marine Le Pen à l'élection présidentielle et qui disent qu'ils vont aller voter le 9 juin, ils se dispersent très peu. Ils se retrouvent à 85 ou 90% sur l'électorat Jordan Bardella, ce qui n'est pas le cas ni pour l'électorat de gauche, ni pour l'électorat du centre. Sur la mobilisation, on le sait, ça peut être une limite à la progression du Rassemblement national. Parfois, les sondages ont indiqué finalement un score un peu au-dessus de ce qu'a fait le Rassemblement national à la fin, parce que la mobilisation, notamment des milieux populaires, est plus difficile pour un scrutin de ce type. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de doute, c'est le RN qui fait la course en tête.
Alors, il y en a une, en tout cas, qui ne rejoint pas LR, c'est Malika Sorel, l'essayiste qui était soutien de François Fillon en 2017, qui a participé aussi au Conseil pour l'intégration créé par Nicolas Sarkozy en 2009, et qui a annoncé ce week-end dans les colonnes du Figaro son ralliement en seconde position sur la liste de Jordan Bardella. Elle dit « Je n'ai pas trouvé chez LR de personnalité qui ait suffisamment de courage politique pour redresser la France et bâtir l'Europe des nations et des peuples qui s'imposent ». C'est quand même un coup dur pour les Républicains, ce genre de ralliement. Il y a déjà eu Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, qui a rejoint Jordan Bardella. Ils arrivent justement au RN à aller prendre sur le terrain de la droite traditionnelle.
Oui, mais est-ce qu'on a beaucoup de mérite à rejoindre le gagnant, celui qui va finalement passer la barre des 30 ? Je ne trouve pas que ce soit... ce serait héroïque, là, d'aller rejoindre les LR maintenant. Ah oui, en revanche, vous voyez, je trouve que c'est assez facile d'aller du côté de ceux qui ont le vent en poupe, ouais, pour une élection dont on sait que, voilà, que ce seront les vainqueurs. Mais je dirais que j'ai trouvé que ce matin, dans l'interview qu'a donné François-Xavier Bellamy sur ce sujet, il a dit que ce n'était pas du tout une perte, que c'était...
Débauchage individuel.
Voilà, débauchage individuel, et sous-entendu, voilà, ceux qui sont droits dans leurs bottes, on les reconnaîtra. Voilà, c'est ceux qui ont des convictions vraiment profondes. Malika Sorel, finalement, elle avait... C'est vrai que c'est une prise de guerre, parce que c'est finalement pour l'affichage de Jordan Bardella, c'est bien d'avoir une femme de cette trempe, de cette envergure, qui elle aussi est issue de l'immigration. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'ils disent à travers ça. L'exigence, voilà, savoir d'où on vient, montrer que ben, la France qu'on veut, c'est celle-là. C'est très beau que ce soit aussi décorrélé de ce qu'on, voilà, d'un certain type de milieu. Mais je dirais que Jordan Bardella, moi, d'après mes sources, qui sont ce qu'elles sont, hein, j'entends beaucoup dire qu'il est en ce moment dans un moment de grande hubris. C'est-à-dire qu'il...
Peut-être trop de confiance.
Trop de confiance, oui. Ouais. Il y a un petit côté...
Il a notamment refusé de participer au premier débat.
Mais oui, mais
quel Sénat, qui a été très commenté.
Très commenté, parce que...
Oui, et Mariani.
Oui, mais moi, je trouve que là, on a encore 2 mois, hein, vous savez, donc c'est à la fois long et pas long, mais... Ça va être intéressant de voir comment...
Est-ce qu'il est trop haut, trop tôt ?
Trop haut, trop tôt, avec toute petite trébuchage, va pouvoir être vraiment gonflé, ou en tout cas deviendra une matière brute très intéressante pour les opposants. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises.
Bertie, est-ce que finalement la dernière différence majeure entre le RN et LR, c'est pas les questions économiques? On parlait tout à l'heure du programme économique de Marine Le Pen, la retraite à 60 ans, l'exonération des impôts pour les moins de 30 ans. Bon, on est quand même très loin du programme de la droite, qui est encore, malgré tout, sur une ligne libérale.
Oui, en même temps, il s'agit plus d'images projetées que de programmes articulés en détail par l'une et l'autre formation politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que Marine Le Pen, quelque part, se recentre aussi, se normalise de ce côté-là, avec une tribune dans les Échos sur le sujet de la dette, etc. Enfin bon, donc on a cette normalisation du Rassemblement National sur les sujets économiques. Et donc on n'affirme plus, évidemment, tout ce qui était Frexit, sortie de l'euro, la retraite à 60 ans, même là-dessus, elle met l'eau dans son vin, etc. Du côté des Républicains, sur le programme économique, on a aussi un petit peu d'incertitude, hein. On le voit sur des votes comme sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada au Sénat, où là on pourrait attendre la droite encore dans le dernier camp des libéraux, justement. Et bien, ils sont plutôt,
ils ont voté contre,
sinon à l'initiative, mais en tout cas déterminants dans le vote contre le CETA, donc on a une incertitude là-dessus. Voilà, donc la démarcation est pas toujours aussi simple, ne serait-ce que parce qu'on manque de propositions extrêmement claires qui permettent de différencier l'une et l'autre formation. La deuxième remarque, c'est que j'ai écouté François-Xavier Bellamy aussi, c'est pour le moment, la plupart de ces flashs sont réservés à Emmanuel Macron, et pas forcément davantage qu'au Rassemblement national.
Il devrait attaquer plus directement le RN, selon vous?
En tout cas, pour différencier les deux formations de droite, ce serait peut-être plus simple. Ce qui est amusant aussi, c'est que lui est en train de vouloir réinstaller le clivage droite-gauche, que refuse non seulement la Macronie, mais que refuse aujourd'hui aussi le Rassemblement
aussi
national.
Le RN qui justement profite.
Et donc c'est là-dessus qu'il essaye de créer un levier que, pour le moment, j'ai l'impression, il ne trouve pas.
On voit bien aussi que le LR, notamment dans le lancement de cette campagne ce week-end, avec le discours d'Éric Ciotti, de François-Xavier Bellamy, tente de nationaliser la campagne, c'est-à-dire de refaire centrer la campagne sur ce qui se passe au niveau français. Pourquoi ? Parce que sur les questions européennes, leur position spécifique, la unique selling proposition, comme disent les gens de marketing, est plus difficile. Si, je fais très simple, si vous voulez dire oui, grosso modo, à l'Europe, vous pouvez être tenté par le vote macroniste ou Glucksmann. Si vous voulez dire non à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, vous allez plutôt être tenté par le vote RN ou par le vote Reconquête. Et donc sur l'Europe, il est plus difficile de se distinguer, notamment aussi parce que François-Xavier Bellamy a une position qui a besoin de, il a besoin d'expliquer, de dire nous siégeons dans le groupe PPE, mais nous ne soutenons pas Madame von der Leyen.
Ah, c'est vrai que ça cause pas mal de confusion peut-être pour les électeurs.
Et donc c'est plus facile pour LR. On a parlé du thème de la crédibilité budgétaire, de la rigueur budgétaire, de se démarquer sur les enjeux nationaux. Et donc le choix qui a été fait visiblement ce week-end, c'est d'essayer de nationaliser la campagne.
Ouais. Albert Zenou, en tout cas, il y a une question sur laquelle aujourd'hui le RN et LR sont proches, à la question de l'immigration. Puisque le RN organise mardi soir ce qu'ils appellent des états généraux de l'immigration. Et en fait, c'est directement inspiré de ce qu'avaient organisé le RPR et l'UDF dans les années 90. Ça s'appelait aussi les états généraux. Là, on est quasiment sur de la copie conforme. Hein.
Oui, c'est souvent d'ailleurs, c'est ce qu'avait le... On se décale un petit peu, c'est ce qu'avait dit Éric Zemmour pendant sa campagne en 2022, oui. C'était revenir à l'idée du RPR des années 80. Donc reprendre, ne faisait que souvent reprendre les thématiques élaborées par la droite des années 80. Oui, il y a une vraie communauté d'esprit sur la gestion de l'immigration, sur le refus de l'immigration. Après, dans les faits, la droite ne ferait pas comme le Front National, enfin le Rassemblement National. Sans doute qu'il y aura des différences, pas d'appréciation, mais en tous les cas de gestion de l'immigration. C'est évident. Mais ça reste un élément, c'est un marqueur très différenciant pour cet électorat de droite sur l'immigration, autant que l'économie. Enfin, c'est vraiment là-dessus que vont se jouer beaucoup de décisions de vote et d'intentions de vote, en tous les cas.
Et en même temps, il y a toujours le dilemme de l'original et de la copie, Bernard Sananès. Est-ce que, justement, ce rapprochement idéologique sur les questions d'immigration, ça ne peut pas favoriser le RN, qui est considéré comme étant... qui préempte ce thème depuis des années.
C'est évidemment le risque pour LR depuis longtemps, hein, c'est de se retrouver dans cette tenaille dont on parle, et c'est encore plus le cas sur les questions d'immigration qui sont estampillées, labellisées pour le Rassemblement National qui a pris position depuis longtemps sur le sujet. Il y a un autre thème sur lequel on l'oublie, Marine Le Pen a pris des positions très fortes pendant la campagne présidentielle qui ont marqué les esprits, c'est le thème du pouvoir d'achat. Vous vous souvenez, on disait, mais tiens, pourquoi Marine Le Pen ne va pas contrer Éric Zemmour? Pourquoi elle lui laisse la thématique de l'immigration? Eh bien, pendant ce temps-là, elle parlait du pouvoir d'achat qu'elle a aussi cranté, notamment auprès des milieux populaires, mais aussi on parlait des cadres, des classes moyennes, comme un sujet extrêmement important. Donc oui, c'est très difficile pour LR de se positionner sur ce sujet de l'immigration, en tout cas d'essayer de montrer qu'il serait mieux disant par rapport aux autres formations politiques.
Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Marine Le Pen sur l'immigration, et la stratégie, c'était de ne pas en faire trop sur l'immigration. Il disait qu'on est tellement identifié à cette thématique-là qu'on n'a même plus besoin d'en parler. On s'intéressait à d'autres choses, comme le pouvoir d'achat, le dire Bernard, et l'immigration, de toute façon, on est les détenteurs du titre mondial de la lutte contre l'immigration. Donc on n'a pas besoin d'insister là-dessus.
Alors, c'est le moment de passer à la dernière partie de cette émission. Je vais vous demander un peu de vous mouiller. C'est le coup de cœur, coup de gris. Vous allez, du coup, me donner une actualité des derniers jours qui vous a marqué positivement ou négativement. Voilà, on va commencer par vous, Guyane. Allons-y. Coup de cœur.
Coup de cœur. Alors, c'est coup de cœur et en même temps émerveillement de voir que parfois on est très très surpris par l'actualité. C'est à l'occasion, j'ai trouvé que la semaine dernière, à l'occasion de cette audition interminable de Vincent Bolloré par les députés à l'Assemblée nationale sur la commission d'enquête, vous savez, pour
sur la nouvelle distribution des canaux TNT, de la TNT.
Exactement, des prochains canaux de TNT. C'était fleuve, c'était très, très. J'observais vraiment l'animal qu'est Vincent Bolloré à l'action, qui était capable de vraiment parler de façon tactique, de se dégager des questions un peu pièges, etc. Et puis d'un seul coup, il y a eu j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'éclair de surprise lorsqu'il a cet homme assez discret et assez verrouillé et probablement très pudique a soudain avancé sur un sujet très personnel, celui de l'avortement. Et il a, alors que c'était une commission exclusivement politique, Il a vraiment, à mon avis, lui aussi pris des gros risques. Et il a raconté, il a témoigné de son expérience propre de l'avortement, de comment son ex-femme avait dû y avoir recours. Et il a dit, j'y pense tous les jours. Mmh. Et je veux dire, dans la bouche d'un homme comme ça, extrêmement réservé sur ses sujets personnels, j'ai trouvé là que c'était un témoignage à la fois courageux, inattendu, et qui nous disait que notre métier était quand même passionnant, parce qu'on peut continuer à observer la patte humaine dans toutes ses surprises.
Un coup de griffe, maintenant.
Coup de griffe, c'était... oui, c'est des questions inquisitrices que je trouve parfois trop. Sonia De Villers, dont d'ailleurs, qui est donc journaliste sur France Inter et qui a repris la grande interview du matin sur France Inter, eh bien, Sonia De Villers, dont je respecte énormément le travail, ce matin, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement insistante pour savoir ce qu'avait glissé dans l'enveloppe, au moment du vote de 2022, François-Xavier Bellamy, dans l'isoloir. Et j'ai trouvé que c'était...
Au second tour.
Au second tour. C'est-à-dire, avez-vous voté Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou voté blanc? Et je veux dire, j'ai trouvé que cette insistance à obtenir cette information, qui pourtant est protégée par le sceau du secret, c'est ça notre démocratie, j'ai trouvé que c'était extrêmement désagréable à entendre. Non pas que je veuille absolument défendre François-Xavier Bellamy, mais j'ai trouvé que c'était de façon aussi forcenée, très désagréable.
Bertie, on passe à vous. Un coup de griffe.
Un coup de griffe. On va commencer avec une commission d'enquête qui a lieu en ce moment au Sénat, dont je ne saurais vous répéter intégralement l'intitulé, qui est assez interminable, mais sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour s'assurer que de la conformité, on va dire, de la stratégie de Total Energy avec la stratégie climatique et de politique étrangère de la France. Bon, voilà. En gros, c'est ça le sujet. C'est une commission d'enquête qui a été déclenchée à l'initiative de Yannick Jadot, dont on sait qu'il n'est pas particulièrement, évidemment, ami avec le groupe Total Energy. Elle est présidée par Roger Carucci. Et alors, c'est l'occasion de faire défiler le banc et l'arrière-banc du CAC 40 au Sénat, pardon. Donc, on a eu les auditions du patron d'Airbus, Guillaume Faury, du patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, du patron du Crédit Agricole, etc. Enfin, on a une série comme ça de dirigeants d'entreprises qui sont convoqués devant le Sénat. Et objectivement, ça vaut le coup d'œil, parce que moi, je m'étais dit, je vais en faire un article, hein, donc j'ai commencé à regarder les auditions. Je crois que personne ne sait où il va. Mmh. L'objet est tellement large, les invités sont tellement loin du sujet, que plus personne... Je vais faire mon micro. Oui. Pardon. Plus personne ne sait exactement quel est l'objet de cette commission. Et donc, voilà, on a un objet, là, assez étonnant, un petit peu lunaire, qui se déroule.
Donc, vous regardez de près les commissions d'enquête, oui, hein, oui. C'est ce qu'on peut retenir.
Arrive qu'on y passe au bon moment, mais là, c'est assez particulier.
Un coup de cœur.
Un coup de cœur avec le sommet qui a eu lieu jeudi dernier à Bruxelles. Alors, pas le sommet des chefs d'État européens, mais le sommet du nucléaire, avec aussi des chefs d'État, beaucoup de chefs d'État. Il était à Bruxelles, à deux titres, Bruxelles, capitale de l'Union européenne, et Bruxelles, capitale de la Belgique, qui est un pays qui a une histoire récente avec le nucléaire assez compliquée et qui a décidé de fermer plusieurs réacteurs de façon anticipée. Donc, ça dit bien... le renouveau que connaît aujourd'hui l'énergie nucléaire en Europe, ça s'est aussi vu avec la présence d'Ursula von der Leyen à la tribune, et qui montre bien la bascule qu'a pu opérer la Commission européenne sur le sujet du nucléaire au cours du mandat écoulé, et probablement dans la perspective du mandat suivant. Voilà, donc il y a eu pas mal comme ça de personnalités. On a même vu qu'il y avait un Premier ministre au Luxembourg. Le Luxembourg a été un combattant acharné du nucléaire français depuis des années, des décennies, qui aujourd'hui commence à dire finalement, ce sera peut-être une énergie dont on aura besoin.
Bernard Sananès, un coup de cœur, votre coup de
cœur. Alors, mon coup de cœur et mon coup de griffe ont un fil rouge.
Ah.
Le fil rouge, c'est d'essayer de chercher un coin de ciel bleu. Nous vivons un moment très difficile, très anxiogène. Je commente moi-même très souvent des chiffres qui sont négatifs et qui sont un peu déprimants parfois, et donc je me dis qu'on a aussi une responsabilité, c'est ne pas sombrer que dans le pessimisme, même si, encore une fois, il ne s'agit pas de sous-estimer du tout les difficultés, le climat de peur, on en a beaucoup parlé. Donc, vous vouliez d'abord le coup de cœur ou d'abord le coup de griffe ?
Comme vous voulez.
Alors, le coup de cœur, c'est quand même la réduction des gaz à effet de serre en France en 2023. Certes, c'est pas suffisant. Certes, on peut toujours faire mieux. Certes, il y a une explication, je parle sous le contrôle des spécialistes de l'économie, liée à la conjoncture, mais moins 4,8 en 2023, c'était moins 2,2 en 2022. Ça va quand même dans le bon sens, et je trouve, y compris que les médias en ont pas beaucoup parlé. On dit souvent que les enjeux climatiques sont très graves, nous menacent, et c'est vrai. Quand il y a une petite bonne nouvelle, un début de bonne nouvelle, il faut aussi le saluer.
Et donc le coup de griffe qui est lié.
Le coup de griffe, il est lié. C'est non au JO bashing. Voilà. Alors, les JO, c'est compliqué, la circulation, j'ai failli moi aussi arriver en retard, ça coûte un peu d'argent, il y a l'inquiétude sécuritaire, etc. Mais si on raisonne un peu tranquillement, et au-delà des enjeux politiques ou des enjeux municipaux sur Paris, on peut aussi se dire que ça n'arrive pas de sitôt, que c'est une occasion pour la France d'affirmer ce qu'elle est, son rayonnement international, la beauté de son paysage, de ses paysages, de ses territoires, et que le sport, c'est une belle valeur. Donc, non au géobashing, il se répand un peu trop et un peu trop facilement.
C'est le cri du cœur de Bernard Sananès ce soir. Albert Zenou, un coup de cœur.
Un coup de cœur. Alors, dans la bouche du rédacteur en chef du service politique, coup de cœur un peu particulier, c'est pour Glucksmann, pour Raphaël Glucksmann, et qui commence à percer les sondages. Et c'est le signe que la social-démocratie, la gauche modérée, a peut-être encore un avenir en France, et en tous les cas, offrir une alternative. Moi, je crois toujours au clivage droite-gauche. Donc, cette gauche-là, cette gauche de gouvernement, peut-être renaître un peu de ses cendres et offrir, en tous les cas, une vraie opposition, une crédibilité que la gauche radicale, type LFI, n'a plus et, et n'aura sans doute jamais. Et donc, que Raphaël Glucksmann commence un petit peu à percer, ça peut être le signe que c'est peut-être pas totalement mort pour cette gauche-là.
Coup de griffe.
Et pour la droite, inversement, la droite, c'est une bonne chose pour la droite, qui est une gauche réaliste et de gouvernement.
Coup de griffe assez rapidement, Albert.
Alors, coup de griffe rapidement, il l'a révélé dans nos colonnes la semaine dernière, c'est Olivier Véran, donc l'ancien ministre de la Santé, qui, neurologue de formation, hospitalier, donc il travaillait dans le public, va faire de la médecine esthétique dans le privé, à la clinique des Champs-Élysées. Bon, lui, avenue de Ségur, le ministère de la Santé, se plaisait à taper sur les médecins libéraux, il devient le symbole même de la médecine libérale et qui, en gros, va chercher un peu à faire de l'argent.
C'est dit, voilà, c'est la fin de cette émission, ce club politique. Merci à tous d'y avoir participé, merci au public d'avoir été présent pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine et vous retrouvez la semaine prochaine. Yves Tréhard.